Salut tout le monde, c'est Radio Jardin, 30 minutes de balade potagère pour faire respirer les oreilles. Prenez vos machettes, on va aujourd'hui explorer la jungle d'un jardin de ronces.
Parce que nous préférons manger nos propres légumes plutôt que les produits industriels des supermarchés. Parce que nous refusons le bétonnage des terres agricoles au profit d'une urbanisation massive. Parce que nous pensons qu'il faut parfois savoir ne pas respecter la loi pour défendre ses idées, nous avons décidé de faire revivre collectivement cette terre maraîchère abandonnée et d'en faire un espace favorisant l'échange dans le quartier.
L'histoire d'aujourd'hui, celle de ce jardin de ronces que vous allez découvrir, c'est encore et toujours l'histoire du petit jardin de la chanson de Jacques Dutronc. Vous savez, ce petit jardin dans la ville qui fait des légumes et du lien social. C'est encore et toujours l'histoire de ces promoteurs avec leurs fleurs de béton à la boutonnière à qui, depuis bientôt 50 ans, l'on crie de grâce, ne coupez pas nos fleurs et qui les bétonnent quand même sous des hectares de zones commerciales, d'activités pavillonnaires, de concentration. C'est encore et toujours l'histoire de ces terres cultivées et non goudronnées qui, en plus de nous nourrir, retiennent l'eau et les catastrophes. L'histoire de ces centaines d'hectares de patrimoine naturel qui sont chaque année irrémédiablement détruits sous le béton des autoroutes, des supermarchés et autres aéroports inutiles. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la chronique tranquille du naturocide et de ceux qui souhaitent autre chose que ce crime déguisé en progrès. Vous êtes aujourd'hui à Nantes, à Doulon pour être précis, qui fait désormais partie de cette formidable mégalotropole qui semble être l'unique modèle de colonisation qui s'impose. Vous êtes au Jardin de Ronces, c'est le nom qui est venu à cette poignée de jardiniers urbains qui ont investi un peu de cette friche en pleine ville. Alors c'est très sympa parce que je suis arrivé dans le centre du Vieux Doulon par bus, on est encore dans la ville, à Nantes, même si on sent déjà que la campagne arrive, on marche le long d'une rue comme ça, puis à un moment, hop, on rentre dans le trou d'un mur. Avec, en arrivant, en serpentant dans les fougères, on déboule sur une plaine. Il y a là une petite cabane. Et pour vous recevoir aujourd'hui sur ce jardin des ronces, il y a Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci de m'accueillir ici. En plus, on a de la chance, il fait très beau en ce début octobre. Là, c'est très sympa.
Il y a un microclimat en fait ici. Même l'hiver, il fait bon. On est abrité du vent. Voilà, on est bien exposé.
Et également avec vous aujourd'hui, Julien. Salut Julien.
Salut.
Et merci pareil de m'accueillir sur ce bel espace. Là, j'ai dit terrain d'aventure très spontanément en fait en arrivant parce que c'était un tel plaisir, vous voyez comme dans les feuilletons Stargate ou tout machin comme ça, vous passez une espèce de porte spatio-temporelle dans la rue et pfft, d'un seul coup vous n'êtes plus dans la ville. Et...
Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens qui passent ici pour la première fois et même après, parce que ça fait toujours cet effet, sont assez étonnés ouais, de cet endroit qui fait partie de Nantes, intra-muros, intra-périph, j'ai envie de dire. Qui est dans un quartier qui est un petit peu à l'écart quand même, avec une histoire particulière, donc Vieux Doulon, qui faisait partie du village de Doulon, donc qui, il y a maintenant un peu plus d'une centaine d'années, faisait pas partie de Nantes, mais il y a toujours un esprit un petit peu particulier qui règne, une histoire particulière, quoi. Donc on ressent encore qu'on n'est pas encore dans la métropole, je dirais, même si on va en reparler tout à l'heure sans doute. Un quartier, là sur cette zone-là particulièrement et pas mal de terrain autour, c'était des maraîchers. Donc c'était une grande zone maraîchère qui s'étendait aussi sur de nombreuses zones là qui sont maintenant urbanisées hein, en allant vers Nantes là, en se rapprochant du centre quoi. Et puis sinon, sur une. On va dire Vieux Doulon, c'était surtout maraîcher, à l'autre côté, on était plutôt sur des ouvriers et cheminots quoi. Parce qu'il y avait la gare de triage pas loin et des usines, la manufacture des tabacs aussi. Donc toute Z, mairie de Doulon, jusqu'ici Vieux Doulon, donc c'était ça un peu les profils quoi, ouvriers et ici plutôt maraîchers. Voilà, et ça a évolué un peu au fil des décennies. L'activité maraîchère s'est progressivement arrêtée, notamment parce qu'il y avait une préemption de la ville sur les terres. Et puis, l'activité ouvrière en bonne partie aussi, parce qu'elle est très peu présente maintenant dans les villes, en tout cas dans les centres-villes. Et puis les cheminots aussi, où ça s'est recentré sur d'autres endroits. Et donc là, il y a plutôt des anciens cheminots qui sont dans le quartier, mais peu de cheminots maintenant. Mais il y a encore des traces, il y a des jardins cheminots qui existent encore. Le club de foot, des cheminots, des choses comme ça. Enfin, de sport, pardon, pas que de foot.
Donc ici, maraîchage, jardinage, on est dans du patrimoine. Marie.
Oui, on aimerait bien le préserver, ce patrimoine maraîcher.
Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur. Ne coupez pas mes fleurs.
C'est assez surprenant parce que bon voilà, tout le monde a entendu parler de la ville de Jean-Marc Ayrault, Nantes, mégalopole moderne avec ses compagnies royales de luxe, ses beaux tramways flambants neufs, avec ses immeubles au design formidable, parce que vous avez une belle école d'architecture à Nantes avec des... On peut être surpris de trouver une si vaste zone. Alors, je me méfie toujours du mot sauvage parce que...
Une friche, ouais, c'est une grande friche. Enfin, nous, là, la friche, on n'utilise pas tout, hein, mais et c'est très bien d'ailleurs qu'on laisse des zones en friche. La parcelle fait 1 hectare et la zone globale, là, qui est en... soit en friche, soit boisé, il y a des zones humides, tout ça, il y a quasiment 200 hectares, je crois, et donc 80 hectares qui seraient à urbaniser prochainement, quoi. Donc c'est pas un choix de la métropole de laisser une belle zone sauvage en friche, parce que c'est important pour la planète, non, c'est juste que c'est une zone qui est pensée pour être urbanisée depuis pas mal d'années, et ils attendaient, on va dire, le moment... au niveau des flux de population et de leur programme pour faire un nouveau quartier urbain. Et donc là, ils terminent à côté un grand quartier, la Beautière-Chênaie, qui a été aussi assez critiqué. Et donc là, dans le temps et dans l'espace, ça arrive ici, en gros, à la suite, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui a été critiqué dans l'urbanisation moderne là, de la zone d'à côté? Parce qu'ils sont beaux, vos immeubles nantais, conçus par de brillants architectes. Ils sont toutes les couleurs.
On est allé visiter un petit peu, parce qu'on avait invité les deux quartiers à se rencontrer pour que les gens d'ici sachent un peu qu'est-ce qui les attend comme type d'urbanisme ici. Et beaucoup se plaignent quand même. Il y a beaucoup de défauts au point de vue des qualités de maçonnerie, tout ça. Il y a beaucoup de fuites et tout.
Et puis, c'est des quartiers qui sont pensés juste pour de l'habitat. Hein. Il y a très peu de choses qui peuvent permettre du lien social. Après, la deuxième étape, ils essaient de penser comment recréer du lien social dans des zones qui ont été pensées juste pour être habitées. Donc, c'est un peu insensé, en fait. Il n'y a pas de café, par exemple. Bon. Et puis, c'était des terres maraîchères aussi là-bas. Hein. Donc, déjà, sur le principe, c'est l'étalement de la ville, même si on dit, paraît-il, nos responsables disent qu'ils essayent plutôt de densifier pour pas trop étaler. Au final, on se rend compte que ça densifie et que ça étale, quoi. Donc voilà. Et puis c'est des zones, c'est des cités dortoirs, quoi. Donc voilà. Donc on concentre un petit peu les habitats dans des endroits. On essaye de faire des choses un peu plus belles que ce qu'on a fait il y a une cinquantaine d'années. Donc il y a moins d'étages, il y a un petit peu de vert, mais ça remet pas en cause ce qui fait que ce genre de zone crée pas de lien social. En fait, il y aurait plein de choses à penser dans ces zones d'habitat nouvelles, mais qui répondent pas aux problèmes du moment, quoi.
Les violentes pluies qui se sont abattues samedi dans les Alpes-Maritimes ont fait 19 victimes. Les forces de police ont interpellé 9 personnes après des pillages. Un drame qui s'explique en partie par la bétonisation de la côte, toujours encouragée par les décideurs politiques.
Journal télévisé de TVL du 5 octobre 2015.
Les habitants des zones inondées ont livré leurs premières impressions. Certains ont tout perdu.
Et nous, on a eu beaucoup de chance avec ma femme parce que l'eau était vraiment à un niveau atteignant la taille, que la peur au ventre.
Il est vraiment dit, zone inondable. Alors pourquoi ils n'ont rien fait? C'est pas normal qu'on construise des immeubles autour de zones inondables. Quand je passe pour aller par exemple vers Fréjus, on voit qu'il y a des marais et des étangs. La piscine, elle a débordé. C'est pas normal ce qui se passe.
Là, au moment où on enregistre cette émission, il y a encore eu, dans le sud de la France, une coulée de boue qui a glissé sur du bitume et qui a fait les morts que vous savez. Et ces mêmes gens qui déplorent ces vagues de boue qui emportent ces pauvres retraités venus chercher leur voiture, ce sont les mêmes qui disent que les écologistes sont des gens contre le progrès, etc. Bon, je pense très précisément, on n'est pas très loin de Notre-Dame-des-Landes ici. Ces écologistes qui manifestent notamment contre le fait qu'on bitume de plus en plus et qu'évidemment, ces zones qui servaient d'éponges naturelles, quand il y a beaucoup d'eau, l'eau sur du béton, elle glisse alors que dans la terre, elle est absorbée. Plaignez-vous, peut-être que bientôt ici, vous aurez un tram qui vous emmènera directement à Notre-Dame-des-Landes.
Non, d'ailleurs, on va en parler un peu après de l'histoire de jardin, mais effectivement, c'est un jardin qui... on est sur une terre qu'on occupe, voilà, donc illégalement, hein, sans droit ni...
Ah mon Dieu, vous êtes en fait ce qu'on appelle des squatteurs, c'est ça, Marie?
Eh oui.
Moi, je suis très choqué.
Le terme, c'est zadiste maintenant. Non, on ne s'est pas revendiqué comme étant une zad, même si c'est une zone, oui, qu'il faut défendre, effectivement. Mais c'est pas un label non plus, quoi. Oui, après, c'est clairement un lieu où on est aussi dans des logiques de défense de territoire face à un autre modèle qui s'impose, là, qui bétonne, et de recréer autrement des manières de consommer, de vivre, et puis d'être sur des logiques d'action un peu directe, finalement, parce que là, on s'est imposé sur ce terrain qui était en friche pour lui redonner vie, aussi pour essayer de contrecarrer aussi ce projet-là, parce qu'on ne croit pas... au cadre qui est proposé, on va dire, par les aménageurs, quoi. Donc là, Nantes Métropole, en l'occurrence, les cadres dits citoyens d'ateliers, où on est censé pouvoir s'exprimer et intervenir dans des projets, ça, on leur met totalement en cause, parce qu'on se rend compte que c'est une hypocrisie démocratique, pour faire passer un petit peu les pilules de, les grosses pilules de l'urbanisation et tout le, parce que derrière, il y a beaucoup d'intérêts financiers, hein. Donc voilà, donc nous, on remet en cause ça, et puis on essaie en parallèle de, à la fois de créer une alternative, donc ce jardin-là, collectivement, de cultiver nos légumes, de manière saine, biologique, de réfléchir à comment on cultive. Il y a plein de choses à penser, comment on s'organise pour avoir matériellement ce qu'il nous faut sur place. Donc on a construit cette cabane avec que des trucs là dans le coin qui traînent. Et puis en parallèle, on essaie de voir de manière plus générale. Alors c'est pas forcément tout le monde au jardin, c'est un peu deux choses en parallèle, mais un mouvement aussi de gens, ou de gens qui sont pas du jardin aussi, qui peuvent être du quartier ou pas, mais qui s'intéressent à l'avenir du quartier, où on essaie de s'organiser pour remettre en cause ce projet. Donc il y a un peu deux axes ici, quoi, l'axe jardinier et l'axe plus politique, qui représentent plus ou moins les mêmes personnes, il y a d'autres gens qui participent, quoi.
Et ben voilà, c'est comme ça dans Radio Jardin, chasser le naturiste, il revient au bungalow. Vous êtes innocemment parti en balade jardinière, sans trop savoir où vous alliez, ni qui vous alliez rencontrer. Et voilà qu'on se retrouve avec de gentils squatteurs qui plantent des poireaux, en opposition à la marche triomphale de la croissance éternelle, nourrie par les inépuisables ressources de cette planète sans limite. Voilà des jardiniers qui n'aiment pas ce monde parfait où le pétrole coulera à flot jusqu'à la fin des temps, et sur une France couverte de mégapoles, de zacs, de parkings et d'aéroports inutiles, comme dans cette chanson de la Parisienne libérée.
Alors là, j'y connais pas grand-chose. Apparemment, il y aurait 4 ou 6 capsules de lacrymo par machin. Mais ça veut dire que tout le potager, tout est inutilisable. Je te jure, le chou-fleur ce matin, je me suis fait avoir et c'est immonde, quoi.
Le projet ambitieux dans les années 60 d'un Concorde radieux d'une industrie qui chante. Le projet innovant des années 70, il faut dorénavant que chacun atterrisse. Le projet oublié des années 80, le pétrole a flambé, tout ça ne sert plus à rien. Le 20e siècle est mort, plus personne ne demande le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quand soudain par magie le monstre est ranimé, le grand hub a surgi prêt à tout bétonner. Y a du terrain à prendre et de l'argent à gagner. Adieu les salamandres, le bocage est fermé. Le kérosène est cher, promis, ce sera le dernier. Mais comme pour le PR, pas question de renoncer. On sait bien qu'on a tort, mais il faut qu'on défende le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
De manière à ce qu'il n'y ait aucun incident et que la sécurité puisse être assurée, les forces de l'ordre sont... présente en nombre suffisant.
Il y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Il y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh. et partout dans les champs des barges qui font fameux. Il a fallu enterrer quelques tritons crétés, mais pour monsieur le préfet tout s'est très bien passé. Une action héroïque en milieu difficile, des noms énigmatiques, une poésie hostile. Le limimbou, le tertre, le sabot, la vacherie, la saulce, les planchers, bel air, le préfailli, l'isolette, la gaieté, le phare, la chèvrerie, la béliche, les rosiers, la cabane, la sécherie. Il y a juste quelques centaines de caïds surarmés, il y a juste un hélico et un petit peu de fumée, deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus, et partout dans les champs des vaches qui font pas meux, et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. C'est une concertation d'un genre déconcertant, et pour la transition ça transite bizarrement. Oignon contre lacrymo, chacun son style de botte, jusqu'au dernier poireau, jusqu'à l'ultime carotte. Tout est mondialisé cependant jusqu'ici, y'a pas de curé nantais en vente au duty free. Non, tout n'est pas perdu, c'est pas dit qu'on se rende au fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Y'a juste quelques centaines de caïds surarmés, y'a juste un hélico et un petit peu de fumée, deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus, et partout dans les champs des vaches qui font pas meux, et partout dans les champs des vaches qui font pas meux.
On va procéder à une évacuation en douceur. Je vous invite à partir.
Jean-Marc Ayrault, merci Hollande, merci.
La Parisienne libérée chante l'inutile projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais vous n'êtes pas dans une ZAD aujourd'hui. Vous êtes en balade à Nantes, dans un jardin de ronces. Une grande friche en pleine ville qui attend l'inéluctable progrès sous forme d'immeubles qui devraient bientôt faire disparaître une belle terre de maraîchage, un petit peu sablonneuse par endroits, mais sûrement parfaite pour faire des carottes. Et puis vous êtes comme moi, vous venez de rencontrer Marie, inconditionnelle de la permaculture, et Julien, jardinier lui aussi. On fait connaissance assis à côté d'une petite cabane dans une jungle de ronces. Vous avez tous les deux, Marie et Julien, lourdement insisté sur le fait que c'est un collectif. Vous parlez en votre nom propre, mais pas forcément au nom du collectif.
Oui, c'est très important. Ici, c'est très ouvert à toutes les manières de voir, d'agir et de penser, de créer surtout. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est que deux, parce que beaucoup de gens travaillent et ils ne peuvent pas être disponibles aujourd'hui. Mais on ne veut surtout pas parler en leur nom. C'est l'ouverture et la créativité qui est le plus important ici. Par exemple, au niveau ne serait-ce que de l'agriculture biologique, un projet d'opté un petit peu pour la permaculture. Quand on dit que l'écologie, c'est pas tourner vers l'économie et l'avenir, je suis pas d'accord, parce que la permaculture, je pense que c'est vraiment un objectif qu'on devrait se mettre au niveau économique.
Julien, Marie, on va faire un peu l'histoire de ce lieu, de ce jardin des ronces. Je vous avoue bêtement en fait que je me suis rué sur vous sans même savoir qui vous étiez ni ce que vous faisiez, parce que d'entrée de jeu, le nom m'a plu.
Alors le jardin, il existe depuis un an et demi, mais ça fait environ 3 ans que dans le quartier, il y avait que quelques personnes ont jardiné d'abord sur une ancienne propriété qui était abandonnée, depuis qu'elle avait été rachetée, donc ils en sont partis. Mais ils faisaient un jardin dans le quartier, ils avaient rencontré des gens, plutôt des personnes âgées, et puis vu qu'ils étaient amenés à partir, ils avaient été mis en lien avec la paroisse, avec le prêtre, parce que l'ancien jardin de curé était à l'abandon, donc l'église Saint-Médard qui est à côté. Et donc ce groupe de personnes, on recrée un nouveau petit jardin collectif sur l'ancien jardin de curé, et puis donc qui est à côté là. Et ensuite, en se baladant, ils ont découvert qu'il y avait en fait une énorme zone en friche. Et puis vu qu'ils étaient un petit peu à l'étroit là-bas, du coup ils se sont dit, tiens, on pourrait mettre juste ici, profiter discrètement pour mettre sur cette parcelle-là des pommes de terre, des oignons, des choses qui demandent pas mal d'espace. Voilà, donc on fait appel à, dans les réseaux de gens... d'amis, etc., des gens qui s'intéressent à ces questions-là, à faire des chantiers. Finalement, il y a une grosse dynamique qui a pris, Et donc ça a ramené aussi pas mal de monde, et puis il y a vraiment un nouveau jardin qui est né, alors que c'était pas forcément le projet au début. Un nouveau jardin, donc indépendamment du petit jardin de la cure, qui est né ici. Et donc, donc un grand jardin avec qui était en friche depuis une quarantaine d'années. Donc beaucoup de ronces qui ont repoussé, ce qui est très bien parce que c'est aussi beaucoup de biodiversité, c'est des bonnes confitures. À la rentrée en septembre, c'est des refuges pour pas mal d'animaux. Bon, certains qui nous causent un peu de tort, mais ils prennent leur part. Voilà. Et donc on l'a appelé comme ça, tout simplement pour ça. Et on essaie de faire avec ces ronces. On en a enlevé une petite partie. On pourra y passer tout à l'heure là. La terre est très bonne sous les ronces, mais sinon elles sont là et elles sont bien utiles, quoi. Voilà.
On parle d'une terre maraîchère qui n'a pas été touchée pendant 40 ans.
Oui, c'est vraiment bio de bio, et c'est très fertile, oui.
Vous êtes combien de jardiniers à graviter aujourd'hui autour du jardin des ronces ? C'est pas comme une asso de jardin ouvrier où voilà, on paye sa cotisation, on sait combien on est, c'est très fluctuant, tu me disais.
Non, c'est fluctuant parce que c'est ouvert à toutes et tous. Voilà, n'importe qui est intéressé pour cultiver de manière collective ici pour rejoindre le mouvement. Donc ça dépend aussi des saisons, ça dépend de plein de choses. Je dirais qu'il y a un noyau dur de plusieurs personnes, hein, qui vient régulièrement. On fait une réunion par mois, mensuelle, donc on se rassemble à une dizaine pour s'organiser sur ce qu'on fait ici, les cultures, sur plein de choses, quoi. Et en plus de ça, il y a souvent régulièrement des chantiers, des fêtes de jardin, des fêtes de quartier, des moments qui rassemblent plein de gens. Il y a vraiment eu beaucoup de passages sur ce terrain, et ça qui est sympa, des différents profils, de gens qui sont un peu plus loin dans Nantes, qui viennent plus pour des raisons l'alternative qui les intéresse, le côté politique, d'autres du quartier, des personnes du quartier qui se baladent, qui découvrent, et ça crée des belles rencontres, et du coup on peut discuter avec eux de ce projet-là, et donc voilà, donc c'est beaucoup de gens qui passent, mais on va dire un noyau dur, et puis après plein de gens autour, des gens aussi d'autres jardins avec qui on est en lien. Donc on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi un grand jardin collectif à Couëron, parce que finalement des jardins collectifs il y en a peu. On est maintenant plus sur des modèles jardins familiaux partagés, où chacun a sa parcelle, où tout est aménagé aussi par ceux qui gèrent ces jardins-là. Donc là, c'est le jardin de la ville en particulier.
Comme la Crapaudine, par exemple, où on était la semaine dernière.
D'accord, voilà. Et puis, donc des jardins collectifs, il y en a peu. Il y a aussi entre les deux des jardins comme sur la zone, là, des jardins dits cheminots, enfin anciennement, où là, c'est géré de manière assez libre par les gens. Après, est-ce que ça va rester là, vu le projet qui arrive, c'est pas sûr, mais ça serait bien, quoi, qu'il y ait des espaces comme ça, ou des espaces de liberté, quoi. On s'auto-organise, on construit notre cabane comme on a envie, on plante ce qu'on a envie, et il n'y a pas de monnaie d'autorisation, de choses comme ça. L'autogestion, quoi, voilà.
Mon Dieu, vous en dites des gros mots. Squatteur, autogestion, on frise l'anarchie. Je suppose qu'il y a probablement des anciens du quartier, bon voilà, eux qui ont connu ces terres-là, cultivées quand ils étaient mômes ou même adultes, à qui ça doit faire plaisir, non, de voir de nouveaux arrivants qui jardinent comme eux-mêmes ou comme leur papa ou leur pépé faisait, non ?
Ouais, on a eu l'occasion d'avoir des discussions avec des personnes, ouais, qui sont passées, notamment dans le cadre des fêtes de jardin. On avait imprimé des anciens plans aussi, parce qu'il y a des cartes aériennes là, qui ont la plus vieille, c'est 1923, je crois. Et on avait imprimé ça, ça a amené à des discussions, ouais, parce que c'est une histoire très forte, qui a à la fois déjà pas mal évolué, parce qu'il n'y a plus de maraîchage actuellement, la zone était gelée, et puis progressivement les gens sont partis à la retraite, et voilà. Mais il y a encore des traces, quoi. Il y a encore des bâtiments agricoles abandonnés, mais qui sont là, il y a encore les réservoirs d'eau là en béton immenses là qui sont comme juste ici là, ils nous regardent. Il y a encore des gens qui ont vécu ça, ou les enfants. C'est des choses qui sont encore présentes dans les esprits, mais qui seraient amenées un peu à disparaître ou à rester dans un musée là, si c'est urbanisé, si ce quartier rentre vraiment là définitivement dans la métropole, on va dire, quoi. Du coup, c'est à re-questionner. Nous, c'est ce qu'on re-questionne. Comment on pourrait avoir réaménagé une zone agricole ici, en fait.
Avant qu'on parte en vadrouille dans ce jardin de ronces, y a déjà votre cabane à l'ombre de laquelle on était assis tout à l'heure. C'est vous qui l'avez faite, évidemment.
Oui, elle a que quelques mois, elle a 6 mois. Parce qu'au début, on avait aménagé dans les ruines qu'il y a, parce qu'il y a des grands bâtiments agricoles ici, des hangars, tout ça. On avait aménagé un petit local et qu'on s'était un peu approprié, mais bon, ça avait été un petit peu dégradé. C'est un terrain un peu de, donc, objet de liberté, nous on veut pas se l'approprier, il y a beaucoup de gens qui passent, des jeunes qui viennent se balader, tiens mais il y a quelqu'un là-bas, il y a des gens qui passent là-bas. Donc des gens qui sont pas particulièrement du jardin, mais qui viennent sur ce lieu-là et qui venaient peut-être déjà avant nous. Donc voilà, on a le fait de s'approprier un petit lieu, ça a peut-être pas trop plu et on a bien compris. Du coup on s'est mis plus à l'écart notre cabane pour laisser les gens utiliser l'autre bâtiment comme ils veulent. Et donc on a construit ça il y a 6 mois, ouais, avec de la récup, des poutres qu'il y avait dans les bâtiments, là, des... plein de choses comme ça, et c'est bien pratique, ouais.
Qu'est-ce que vous avez écrit là en fronton de cabane? Il y a un petit texte.
Parce que nous préférons manger nos propres légumes plutôt que les produits industriels des supermarchés. Parce que nous refusons le bétonnage des terres agricoles au profit d'une urbanisation massive. Parce que nous pensons qu'il faut parfois savoir ne pas respecter la loi pour défendre ses idées. Nous avons décidé de faire revivre collectivement cette terre maraîchère abandonnée et d'en faire un espace favorisant l'échange dans le quartier.
On rentre dans la cabane du Jardin des Ronces, une vraie grande cabane de jardinier. Vous avez pas mal de choses, là, je vois 3 dizaines de manches.
La récup, des dons, voilà, on a fait passer des petits appels à outils, donc on se débrouille toujours pour en récupérer, et ouais, c'est à nous. Ouais.
Ce qui est important, c'est qu'on est vraiment autonome. On n'a aucune subvention et chacun participe à sa manière, soit financièrement, soit en travaillant ici. Bon, je vois le gaspillage au niveau, parfois subvention pour certaines associations qui n'ont pas toujours le résultat qui correspond à cet argent gaspillé. Voilà. C'était aussi un point important des Ronces.
Puis un petit terrain de pétanque. Voilà.
Ah ouais, trop bien.
Bon, il est récent, hein, donc il n'est pas encore en état exact. La végétation a un peu repris. Mais oui, c'est important. Et c'est aussi un endroit où on vient pour se détendre. Et voilà, on a envie de faire plein d'autres choses que du jardin.
Une bonne vieille pétanque après une journée de jardinage, c'est quand même drôlement sympa. En balade sur le Jardin des Ronces avec Julien et Marie. Ça y est, on est parti à l'exploration de cette friche. J'aime bien ce mot friche, de zone tampon entre des mondes. Et puis, comme le disait Marie, des endroits aussi pour que les animaux puissent vivre, se cacher, etc. Mais cette notion de friche, c'est probablement les derniers espaces de liberté qui nous restent.
Malheureusement, j'ai envie de dire c'est ça, parce que c'est... C'est quand même des espaces qui sont pensés, mais disons qu'ils sont pensés dans un temps qui est un peu plus lointain. Donc en attendant, c'est un espace sauvage, où n'empêche que nous, on essaye de... On s'occupe pas trop, du cadre légal, puisqu'on s'est imposé, mais il y a quand même potentiellement au-dessus de nous la répression qui est possible. Donc c'est des espaces de liberté, j'ai envie de dire oui et non. Nous, on se les réapproprie, on se crée un espace de liberté. Pour autant, on sait qu'on est sur un terrain public, on sait que notre métropole n'est pas très preneuse de genre d'expérience qui rentrent pas dans leur cadre, donc potentiellement on peut avoir entre guillemets des problèmes aussi, hein, donc voilà, c'est des espaces qui sont à défendre, ouais, des friches comme ceux-là, mais qui sont voués à autre chose malheureusement, ouais.
En tout cas, pour le moment, cette nature, elle est domestiquée, parce que juste devant nous, eh bien, 3 magnifiques et grands rangs de poireaux qui sont beaux.
Bon, on était une très grande équipe de chantier collectif, en même temps qu'un peu que la cabane et tout ça, et c'était très vivant. On était au moins une trentaine sur un chantier, donc avec des gens qui travaillent, des gens qui papotent, qui jouent la musique. Enfin, c'est un univers très ressourçant.
Et d'ailleurs, ça monte un peu l'aspect aussi collectif avec d'autres jardins, parce que c'est poireaux, donc il y en a aussi dans d'autres zones, hein, on en a un paquet, hein, dans, je sais pas, 2000, des graines d'un grand...
Vous avez 2000 poireaux ici?
Ouais, je pense. Bah, après, ça va vite, hein, les poireaux, hein, tous les 10 cm. Ouais, donc un... ouais. Ben, un grand jardin collectif à Couéron aussi, avec qui on est en lien, et on défend aussi des idées proches, et puis qui nous avait ramené plein de graines qu'ils avaient fait eux-mêmes, et puis donc sur ce grand chantier là, comme disait Marie, on avait semé ça, et puis ces poireaux, donc on avait là par contre pour le coup peut-être des semis, il y a peut-être 10 000, parce que ça va très vite, là ils sont très très proches. Et donc nous on n'allait pas replanter tout ça faisait beaucoup, mais les 80-90% sont partis du côté de Notre-Dame-des-Landes, voilà.
Comme par hasard, bah bravo, voilà. La terre a l'air super là, non? Elle est, c'est plutôt sablonneux.
Très sablonneux, parce que bon, on est à côté de la Loire, hein, déjà c'est des terres assez sablonneuses. Puis Je suppose que les maraîchers aussi avaient ramené du sable à l'époque. Donc, ouais, c'est une terre qui est très facile à travailler, mais qui est.
Marie hoche de la tête. Hein.
Mais c'est pas forcément les terres non plus les plus riches, hein, les terres sableuses. Hein. L'argile, c'est important aussi. C'est même le plus important. Quand même assez fertile, parce qu'elle est terre posée. Et on essaye de la cultiver de manière à ce qu'elle garde la fertilité, mais ouais, elle mériterait quand même un petit peu d'amendement parfois.
Et voilà les amis, c'est fini pour ce premier volet de votre rencontre avec ce jardin de ronces aux 2000 poireaux. Et c'est pas tout, on continue cette exploration potagère au prochain épisode, même lieu, même heure. Salut !